Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'écouter le forum du studio Kalangou. Au microphone, Mohamed Maman. Vous recevez ce forum grâce à un réseau de 52 radios partenaires sur l'ensemble des 8 régions du Niger. À Maradi, ce forum est diffusé sur les ondes de la radio Garkwa 107 MHz et la radio Saraounia sur les 102.1 MHz. L'émission d'aujourd'hui porte sur quels sont les effets de la fermeture de la frontière sur le commerce transfrontalier entre Maradi et Nigeria. En effet, depuis le coup d'État au Niger du 26 juillet 2023, les frontières sont restées fermées. Les 1500 km de frontières entre le Niger et le Nigeria sont toujours fermées également. Pourtant, c'est un commerce intense qui est exercé entre les deux pays qui partagent une large frontière. Situation qui a compliqué davantage les transactions. À Maradi, côté nigérien, la fermeture de la frontière a engendré un ralentissement des échanges commerciaux entre les deux parties. Quels sont les principaux indicateurs économiques qui reflètent l'impact de la fermeture de la frontière sur le commerce entre Maradi et Nigeria? Quelles sont les solutions possibles pour atténuer les effets de la fermeture de la frontière sur le commerce entre Maradi et Nigeria? Quelles sont les initiatives à long terme qu'on pourrait prendre pour renforcer la résilience de l'économie locale face à de telles crises? À ces questions et à bien d'autres, nous tenterons de trouver réponse avec nos invités ici présents. Il s'agit de M. Yaya Hari, qui est économiste planificateur à Maradi. M. Yaya Hari, bonsoir.
Bonsoir.
M. Mahaman Oumarou Magaji, le directeur régional du commerce et coordinateur de la commission mixte nigéro-nigérienne à Maradi. M. le directeur, bonsoir.
Bonsoir, M. Mohamed.
Nous avons M. Mahaman Sani Rabiou, qui est commerçant et président des commerçants au grand marché de Maradi. M. le président, bonsoir.
Bonsoir, M. Mohamed.
Et enfin, nous avons Mme Hajara, entrepreneur et commerçante à Maradi. Nous allons débuter cette émission avec vous, M. Yahya Hari. Vous êtes économiste, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, et planificateur. Quels sont, selon vous, les principaux indicateurs économiques qui reflètent les effets de la fermeture de la frontière sur le commerce entre Maradi et Nigeria?
Merci, M. Mohamed. Maradi et le Nigeria, c'est environ 150 km. Et ce dont je vais parler, c'est en matière économique. Et vous avez posé la question de savoir quels sont les indicateurs. D'abord, les indicateurs, c'est des unités de mesure sur l'économie. Si nous définissons l'économie par qui étudie les entreprises, le comportement des entreprises, des gouvernements, des individus et des sociétés pour gérer des ressources rares, d'une part, et que l'économie analyse la production, la distribution et la consommation des biens et des services, d'autre part, dans une société, vous convenez avec moi que la fermeture des frontières entre nos deux États, entre les États du nord du Nigeria et Maradi, ont des effets sur le niveau des échanges, le flux des marchandises, le flux des biens et des personnes et les échanges de devises. Quels sont les impacts? C'est qu'il y a un ralentissement des activités commerciales. Il y a un ralentissement des activités, des transactions. Il y a un ralentissement de la dynamique économique et commerciale. Et quand on dit ralentissement, ça veut dire que le flux des biens et des services n'entre pas aisément, facilement et comme d'habitude. Là, il y a une interruption, il y a une cassure, il y a des effets qui indiquent que les gestes qui se faisaient là, par le passé ne se font plus. Et du coup, les deux économies s'en sentent. Parce qu'en réalité, il ne faut pas oublier que le Niger ait fermé son frontière avec le Niger. Ou que le Niger ait fermé ses frontières avec le Nigeria. Mais c'est tout comme quand le Nigeria ferme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens du Niger ou de Maradi ne partent pas. Ou partent pas aisément. Et les gens de l'autre côté aussi ne viennent pas. Et les flux des marchandises, des biens et des services vont se ralentir. Et quand ils se ralentissent, ça a des effets sur l'économie. Et du coup, vous aurez une baisse de niveau de production des biens et des services, une baisse de niveau de distribution des biens et des services, une baisse des niveaux de consommation des biens et des services. Et quand il n'y a pas aisément une production suffisante, une distribution suffisante, une consommation suffisante, du coup, les flux monétaires et les flux financiers s'en font sentir. Et du coup, ça agit sur l'ensemble de l'économie, sur les emplois,
sur les revenus, sur le produit intérieur brut et sur le niveau de consommation et le niveau de production, et donc sur la croissance économique.
Monsieur Harry, aujourd'hui, comment évaluer l'ampleur de cette baisse des échanges commerciaux?
Vous avez la baisse des échanges commerciaux, comme je l'ai dit, qui entraîne une diminution importante des échanges commerciaux entre le Niger et le Nigeria. Vous avez une perturbation des chaînes d'approvisionnement dont les entreprises et les commerçants de la région de Maradi dépendent des importations en provenance du Nigeria. Approvisionnement, des activités font face à des interruptions et des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement s'ajoutant. Un exemple, lorsque vous voulez construire à Maradi, vous avez besoin du ciment, du fer et autres. Vous allez au Nigeria acheter. Quand vous partez au Nigeria, vous amenez des devises. Vous prenez des biens et des services, vous amenez ici. Et vous amenez des devises au Nigeria, vous amenez des biens et des services pour satisfaire vos besoins. Vous avez besoin du ciment, du tôle, de tôle et autres pour faire votre construction. Et ils ont besoin de l'argent parce qu'ils ont de quoi vendre. Mais si il y a un ralentissement de la chaîne d'approvisionnement, du réseau de distribution, donc du réseau de consommation, leurs productions vont baisser parce qu'ils n'auront plus les revenus nécessaires pour aller s'approvisionner. Et les stocks qu'ils ont avec eux, puisque de ce côté, on ne va pas là-bas, ou on va rarement ou difficilement, il y aura, le stock va être là. Et il y a ce qu'on appelle la vitesse de rotation des stocks. Lorsque vous achetez, vous ne vendez pas, vous avez le stock qui est là. Vous avez donc de l'argent que vous perdez et vous avez la dépréciation de la valeur de la marchandise. C'est que vous allez vendre à un temps T à 1000 francs, à un temps T plus 1, vous allez le vendre peut-être à 500 francs ou à 500 francs. Et même si vous le vendez à 1000 francs, en valeur faciale, ça a une diminution parce que les 1000 francs d'aujourd'hui ne vous permettent pas d'acheter les biens comme si vous aviez les 1000 francs avant-hier.
Donc ce sont des défis auxquels les commerçants sont confrontés.
C'est des défis auxquels les commerçants sont confrontés, mais des défis aussi bien pour les commerçants nigériens, pour les commerçants de Maradi que pour les autres commerçants.
Nous allons revenir. Merci, Monsieur Yayari, pour toutes ces précisions. Monsieur le directeur, je vais me tourner vers vous pour vous demander quels sont les textes, hein, parce que il faut le rappeler, vous êtes aussi le coordinateur de la commission mixte K2M, Maradi Kachina. Alors, quels sont les textes et accords existants qui régissent le commerce ou bien le déplacement entre Maradi et Nigeria?
Voilà, donc merci Monsieur Mohamed. En fait, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs textes qui régissent. Et bon, on va citer quelques-unes. Il y a des accords qui datent de 1980 qui nous lient parce que bien avant ces accords, il y avait déjà des relations qu'on a, socio-économiques, culturelles. Et pratiquement, comme l'a dit mon prédécesseur, on partage plus de 1500 kilomètres de frontières. Et il va de soi qu'on a les mêmes cultures, les mêmes principes. Et ces accords ont juste été formalisés, mais bien avant ces accords, il y avait déjà des relations qui existaient. Bon, je vais citer quelques-unes. Il y a les accords sur l'accord des transports routiers entre le Niger et le Nigeria, qui a été signé le 18 juin 1990. Il y a l'accord entre le Niger et le Nigeria relatif à la lutte contre les ennemis de culture, qui a été aussi signé en 1980, le 18 juillet 1990. Il y a les accords relatifs à la création des comités bilatéraux locaux et de coopération transfrontalière. Là aussi, c'était signé en 1990. Il y a le protocole d'accord en matière d'information, donc d'information entre le Niger et le Nigeria, qui a été également signé en 1990. Il y a le protocole d'accord de coopération entre la Chambre de commerce du Niger et l'Association des chambres du Nigeria, de l'industrie et des mines, qui a été également signé le 1er mars 1991. Il y a l'accord commercial entre la République du Niger et la République fédérale du Nigeria, qui a été signé le 25 janvier 2002. Donc, mais la création, comme vous l'avez dit, je suis le coordinateur régional du corridor Kano-Kassina-Maradi, mais ce corridor a été mis en place, ou bien l'arrêté a été signé en 2014. Mais bien avant, il y avait eu des démarches qui étaient parties de la crise de 2005, la crise alimentaire qui a attaqué le Sahel, particulièrement au Niger, et qui a amené les pays à songer comment créer un lien entre la sécurité alimentaire et le commerce transfrontalier. Et c'était des réflexions qui ont porté depuis 2005, mais ils ont porté leurs fruits qu'en 2014. Et c'est en ce moment qu'on a mis en place les comités bilatéraux, parce que c'était dans des papiers. Des fois, on utilisait les accords à temps, c'est-à-dire lorsqu'on a besoin de se concerter. Mais effectivement, les cellules ont été mises en place en 2014. Et ils ont commencé leurs activités avec la commission mixte nigéro-nigériane qui a donné un cahier des charges. Et ces cellules existent aussi bien à Maradi, à Kano, à Kasina. Ils ont des membres qui sont censés faire des réunions. Ils ont des cahiers des charges. Et on les a donné 5 domaines. Il y a le domaine des échanges commerciaux, la libre circulation des biens et des personnes. Ça, c'est le premier domaine. Il y a le domaine de la sécurité alimentaire. Il y a également le domaine des transferts de capitaux. Comme vous savez que entre le Nigeria et le Niger,
c'est le CFA,
et la NERA. Donc il y a ces problèmes de coexistence entre deux monnaies. Comment trouver un mécanisme pour que les échanges puissent
se faire d'une manière fluide.
Voilà.
Donc, comment sont appliqués ces textes?
Ces textes, lorsqu'on nous a donné le cahier de charges, on les a mis en vigueur, parce que je vais vous donner un petit exemple. Auparavant, quand vous partez de Maradi pour aller à Kano, vous avez tellement de postes de contrôle qui sont juxtaposés de part et d'autre, et il y a aussi des tracasseries. Mais avec la mise en place de ces cellules, on a combattu, et c'était, on ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais c'était amoindri, et il y avait vraiment
plus de facilité.
Et maintenant, les agents, avec la technologie, ils avaient peur qu'on les prenne en flagrant délit, parce que les gens avaient l'habitude de prendre des images. Et maintenant, quand on fait des rapports, on transmet, que ce soit du côté du Niger et du côté du Nigeria, des dispositions qui sont prises pour que les gens...
Mais donc les textes sont appliqués correctement.
Correctement.
Alors, selon vous, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, les fermetures de frontières, est-ce que selon vous, on peut envisager des révisions de ces textes?
Oui, parce que si vous vous rappelez, on peut envisager déjà, parce que il faut souligner que c'est pas la première fois que le Niger a fermé ses frontières. Si vous vous rappelez, avec le président Buhari, il avait fermé ses frontières. Et donc c'est pour dire que les révisions des textes, avec quand vous constatez que c'est-à-dire la personne ferme au besoin, parce que c'était unilatéral, donc il y a nécessité de revoir comment mettre des dispositions pour que la personne ne ferme pas à tout, c'est-à-dire à son bon vouloir. Et là, ça peut protéger. Mais peut-être ce que j'allais dire, parce que si vous vous rappelez, avec... les dispositions qui ont été prises, il y avait le Niger qui avait suspendu, qui était sorti de la CEDEAO. Donc là, comme c'est des textes bilatéraux, peut-être lorsqu'ils vont être maintenant, peut-être c'est de façon bilatérale qu'ils vont être élaborés, et là l'État peut mettre des garde-fous pour que ces dispositions...
Chacun, un bon matin, voilà, ne se décide pas juste de fermer.
Donc moi, je pense que quand on met des verrous et que des dispositions doivent être d'abord... Des protocoles doivent être suivis pour que même si tu veux fermer, il faut que tu amènes des arguments convaincants pour qu'on puisse aboutir
à la fermeture. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci. Nous allons tourner vers les commerçants qui vivent cette situation. Alors, nous allons demander... Monsieur Mamansani Irabiou, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, commerçant. Vous êtes aussi le président des commerçants du Grand Marché. Alors, président, quels sont, selon vous, les impacts directs de la fermeture des frontières sur vos activités commerciales?
Assalamu alaikum, je suis ravi vraiment d'être parmi vous. Donc, les impacts sont vraiment directs. Ça a touché beaucoup nos activités. Pourquoi? Nous, qui sommes dans le marché, nous mettons en relation les consommateurs entre les producteurs et les consommateurs. Donc, le commerçant est au milieu. S'il y a la fermeture de la frontière, vous voyez, on n'a pas la capacité ou bien l'occasion d'importer. Parce que le commerce, c'est quoi? Il y a les
les usines qui produisent les marchandises qu'on vend. Et aussi, il y a les commerçants qui sont les importateurs ou bien les grossistes. Une fois on n'a pas la capacité ou bien la possibilité de la circulation des marchandises et des personnes facilement, donc nous, notre affaire est déjà touchée.
C'est-à-dire que vous avez rarement les produits dont vous avez besoin ?
Oui. Une fois vous avez un stock, il y a un problème, donc vous n'avez pas la possibilité d'amener encore. Si ce que vous avez est déjà fini, donc le problème est là, vous voyez.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face, vous, commerçants ?
Le principal problème, c'est adapter. Pourquoi ? Ici, en maladie, depuis la disparition de transit, et à Corona, fermeture des frontières au temps de Wahari. Et puis, parfois, vous savez, dans le marché, nous avons une expérience. Une fois la mauvaise récolte il y a eu, donc on a un problème parce que la majorité de ceux qui viennent au marché venaient de campagne. Donc eux aussi, ils n'ont pas ce qu'il faut pour aller acheter des marchandises. Il y a aussi la fermeture au temps de coup d'État. Vous voyez ?
La fermeture que nous vivons actuellement.
Oui, nous vivons.
Alors, au Nigeria, qu'est-ce que vous, commerçants, vous importez plus ?
Il y a plusieurs marchandises qu'on amène. Parce que tout ce qu'il faut pour alimenter la population, donc...
Nous vient du Nigeria.
Oui, la majorité.
Quelles sont les stratégies que vous avez pu mettre en place pour maintenir vos activités ? Bon. Parce que je sais que malgré la fermeture des frontières, vous n'avez pas arrêté vos activités.
Oh, oui. Ce que nous faisons à travers les réseaux sociaux, déjà, vous avez... les fournisseurs de l'autre côté. J'ai besoin d'une telle somme, d'une telle marchandise. On paye et il y a des chauffeurs qui importent. Voilà ce que nous faisons.
Les commerçants aujourd'hui ne partent plus.
La majorité ne partent pas.
Merci Alachi. Nous allons peut-être demander à Madame, présentez-vous parce que nous avons commencé avant vous.
Donc moi je suis Hajia Omoka Elukumandako et Madame Abdoulaye. Et je suis la présidente du réseau pour l'autonomisation des femmes entrepreneurs de maladie, formatrice et fondatrice aussi d'un centre de formation qui est ABC des jeunes entrepreneurs, autonomisation et bien-être continu des jeunes entrepreneurs. Je suis aussi promotrice d'une marque de chaussures et articles de cuir Zepo. Je fais partie aussi du bureau exécutif de l'AIPCP, qui est l'interprofession des cuir Zepo. Et récemment, j'ai été nommée pour être la vice-présidente de AWIP, qui est African Women in Processing, qui est... une association de femmes entrepreneurs sur l'échelle africaine. Donc je suis vice-présidente et chargée des relations internationales.
Quel est l'impact direct de la fermeture des frontières sur vos activités économiques ?
Donc moi je vais parler selon mes réalités, selon vraiment nous, notre perspective de jeune entrepreneur. Voilà, parce que généralement les gens confondent entrepreneuriat et commerce. Alors que nous, ce que nous faisons, c'est vraiment pour... Nous transformons ce que nous avons. Mais malheureusement, nous ne pouvons le faire aussi sans aller chercher des matières au niveau du Nigeria. Nous avons besoin aussi souvent d'emballage. En tout cas, la relation, elle est très nette entre nous. Que ce soit au Nigeria ou même au-delà de ça. Donc, c'est vraiment... nous sommes interdépendants, je crois. Mais malheureusement pour nous, par exemple au niveau de maladie, on est beaucoup plus dépendant peut-être que d'autres pays. Et je pense que cette situation dans laquelle nous sommes, nous devons l'utiliser pour apprendre de nos erreurs plutôt que de se morfondre, optimiser la situation. Parce que dans toute situation, c'est vrai, nous sommes dans des difficultés. Mais dans ces difficultés-là, lorsque nous arrivons à surmonter ces difficultés-là, nous allons créer vraiment des solutions pour les problèmes dans lesquels nous sommes.
Vous parlez de problèmes, quelles sont les principales difficultés?
Les principales difficultés, c'est vraiment comme les autres l'ont dit avant moi, c'est le manque d'échange. Comme je le disais plus tôt, au niveau par exemple de l'emballage, généralement les femmes entrepreneurs et même les jeunes entrepreneurs en général, tout ce qui est emballage, tout ce qui est même souvent matières premières et autres qu'ils utilisent dans leurs entreprises vient du Nigeria. Et aujourd'hui, avec cette coupure-là que nous avons, et qu'il n'y a pas entre nous ce va-et-vient-là, ce qui fait que ça bloque. Les gens ont des ruptures en emballage, ils n'arrivent, parce que même s'ils produisent, ils ne pourront pas emballer. Souvent, même le simple étiquetage vient du Nigeria. Les étiquettes qu'on met pour renseigner sur le produit et autres viennent du Nigeria. Ça aussi, c'est un problème. Nous, à notre niveau, généralement, nous avons un gros problème, c'est que l'État n'investit pas dans l'industrialisation. C'est un gros handicap. Ce qui fait qu'on est tellement dépendant du Nigeria pour produire en quantité et en qualité.
Alors, madame, comment vous faites aujourd'hui pour garder, malgré cette fermeture, vous continuez vos activités? Quelles sont les alternatives que vous avez pu trouver?
Bon, pour le moment, vraiment, c'est d'être résilient d'abord. Parce qu'il n'y a pas de vraiment, je dirais, une solution concrète qu'on va dire, ah, puisqu'on est en train de faire ça, c'est en train de changer la situation et que ça va. Disons-nous la vérité. Il faut être patient jusqu'à ce que la situation se stabilise. Ou bien qu'on trouve d'autres alternatives. Et je pense que, et j'espère vraiment que d'autres alternatives vont être trouvées. Parce que, avec ce qui s'est passé avec le corona, avec la géopolitique dans laquelle nous sommes, avec le monde, comment il va maintenant, chaque peuple, chaque État doit trouver des solutions pour ne pas réellement dépendre des autres. Aujourd'hui, nous devons apprendre de nos erreurs.
Est-ce que les difficultés que vous êtes en train de vivre, étant donné que vous êtes femme, est beaucoup plus accrue que par rapport aux hommes? Bien, c'est pratiquement la même chose.
Par exemple, tout à l'heure, vous demandiez si ils partent au Nigeria pour faire des transactions. À cause de l'insécurité et de la situation actuelle, quelle femme va se hasarder à aller au Nigeria? Pourtant, dans le temps, il y a des femmes qui allaient chaque jour. Il y a des femmes qui vivent de ça. Et ce n'est pas seulement des femmes commerçantes. Il y a des femmes parmi nous qui sont des veuves. Il y a des femmes parmi nous qui sont des divorcées. Si aujourd'hui, ces femmes-là, elles ne trouvent pas de source de revenus, c'est difficile parce que c'est toute la chaîne qu'elle tire. Si par exemple une femme ça ne va pas, le mari ça ne va pas, elle est vraiment le pilier de la famille très souvent. Et si ce pilier là s'effondre, c'est les enfants qui s'effondrent avec. Donc c'est très important que vraiment on
chez vous, chez vous les femmes c'est encore plus compliqué.
C'est encore plus compliqué parce qu'un homme il peut prendre le risque, il n'a pas le choix. Mais chez la femme, vraiment le risque est énorme.
Merci beaucoup, madame. Alors, nous allons continuer toujours ce forum. Cette fois-ci, nous allons parler des solutions. Monsieur Yaya Ali, quelles sont, selon vous, les solutions possibles pour atténuer les effets de la fermeture de la frontière sur le commerce entre Maradi et Nigeria?
Sans être exhaustif, je vois 4 solutions possibles. D'un point de vue économique, il peut y avoir beaucoup d'autres. Il y a une situation de circonstance qui est là, elle est politique, elle a eu des répercussions sur le social, sur l'économie, sur le culturel et sur nos comportements parce que ça nous a rendu résilients. Alors, il faut dialoguer. Les parties doivent dialoguer, se concerter et négocier. Parce que quand il y a négociation, il n'y aura pas de rupture définitive et il n'y aura pas de casse véritablement et dramatique. Deuxième solution. Il faut diversifier les marchés. Maintenant, ça nous a appris à ne pas être à sens unique. Donc, il faut diversifier les marchés. En Hausa, on dit « Inhagontakia Kumadama ». Ou bien alors, c'est-à-dire, il faut diversifier. Ça, c'est une opportunité qu'on a du côté de ceux. Mais aujourd'hui, l'expérience nous a montré que ce potentiel-là peut avoir des répercussions négatives. Et c'est ce qu'on a vécu, ne serait-ce que la coupure d'électricité. Troisièmement, il y a la promotion du commerce intérieur. Puisque, auparavant, notre commerce est tourné, je parle sous le contrôle de la mairie, est tourné véritablement de l'autre côté. Il n'y a que ça et que ça. Notre raisonnement, c'est ça. Mais puisque nous avons appris la leçon des choses, et puisqu'il faut s'adapter,
Et puisque ne faut pas attendre que des facilités nous soient offertes d'abord, on ouvre le robinet, on ferme. Nous avons un comportement à observer, c'est de développer notre génie créateur et avoir développement, le commerce.
Madame le disait tout à l'heure, c'est un pays qui n'est pas industrialisé, donc tourner vers l'industrialisation.
C'est la nécessité d'envisager des solutions concertées et des initiatives visant à atténuer les effets négatifs. L'économie, il faut anticiper.
Malheureusement,
on prévoit et on dit, au cas où ce que j'envisage là, l'option que j'envisage n'est pas réalisable, ou difficilement réalisable, ou elle est périlleuse, ou elle a des limites, alors quelle autre alternative je vais envisager pour ne pas être surpris? Un acteur économique, qu'il soit une entreprise, qu'il soit un ménage, qu'il soit un individu, qu'il soit l'État ou le gouvernement, ne doit pas être surpris. Il faut avoir au moins 2 à 3 cordes à son arc.
Malheureusement, au Niger, c'est notre problème. Hein.
Mais maintenant, nous allons apprendre. Nous sommes en train de vivre les situations. C'est pas souhaitable, c'est pas souhaitable, c'est dur. Mais puisque maintenant nous avons vu, nous avons vécu, nous avons entendu, nous avons senti, mais si nous ne changeons pas, c'est que nous sommes têtus.
Merci, monsieur Yaya Harry. Nous allons tourner vers vous, monsieur le directeur. Alors, vous avez écouté Yaya Harry qui parle de 4 solutions pas exhaustives hein, pour faire face à cette crise. Alors, de votre côté, quelles sont les actions concrètes que votre commission peut envisager pour faciliter les échanges transfrontaliers malgré cette fermeture?
Si vous vous rappelez, dans sa première précision, monsieur disait il faut dialoguer. Et je pense que le cadre est là pour... Parce qu'il faut qu'on songe aux discussions bilatérales. Il faut qu'on pense que... Parce que de la même manière qu'on est en train de souffrir, qu'on est en train de vivre la situation, du côté du Nigeria aussi, ils sont... Parce que même si vous produisez, s'il n'y a pas des acheteurs, mais il faut dire que... Et maintenant, ils sont... C'est pour dire que il y a ce qu'on appelle, comme il l'a dit tantôt, il y a la dépréciation. Vous faites de la production, peut-être lorsque vous devrez le vendre peut-être à 1000 francs, maintenant vous cherchez un acquéreur à 500 ou à
400.
300 ou 400.
Donc forcément, il faut que les deux pays, dans un cadre bilatéral, essaient de dialoguer.
De dialoguer.
Merci beaucoup, monsieur le lecteur. Madame, nous savons que vous êtes dans le cuir, parce que vous faites des chaussures en cuir, les sacs. Vous faites aussi les produits cosmétiques et autres. Alors, comment vous êtes en train de réfléchir pour ne pas arrêter, malgré la fermeture de la frontière?
La situation, effectivement. Donc, moi, par exemple, au niveau des chaussures, là, c'est d'utiliser seulement ce que nous avons sur place d'abord. Et puis, j'aimerais, à ce niveau-là, lancer un appel, c'est de miser beaucoup sur la formation professionnelle. Utilisons ce moment-là pour se former.
Alors, comment la technologie numérique pourrait-elle être utilisée pour stimuler le commerce dans ce contexte-là?
Oui, on est dans le nouveau monde actuellement et tout ne se fait qu'autour du numérique. Donc, c'est ça, je reviens encore là-dessus. Il faut se faire former, il faut se mettre à l'air du temps. Parce que, et comme l'a dit mon prédécesseur, vraiment, on est dans une situation où on doit apprendre de nos erreurs passées. Et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. On ne va pas se rester et toujours... On apprend de nos erreurs et puis on avance. Si on ne le fait pas, comme il l'a dit, l'histoire retiendra de nous. Il a dit des têtus. Mais sincèrement, moi, je vais aller plus loin. Excusez-moi, je veux choquer. Pas seulement des têtus, mais des idiots. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un pays se trouve dans une situation difficile. À chaque fois, c'est les mêmes erreurs et on n'a aucune volonté de changer. Donc, il faut savoir exactement ce que nous voulons. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à se lever et puis faire le travail au coup par coup, au hasard. Il faut être visionnaire, il faut être stratégique, il faut avoir des objectifs clairs pour son pays, pour son peuple, pour soi-même. Rien ne se fait au hasard aujourd'hui parce qu'on est dans une dynamique où on est comme dans une jungle. Si on reste comme ça, on va se faire manger.
Merci beaucoup,
parce
madame.
Parce que les pays n'ont pas des amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, les plus grands pays sont les plus patriotes. Donc, soyons patriotes et soyons très, très égoïstes. Donnons le meilleur à nous-mêmes. parce que personne ne viendra le faire à notre place.
Merci beaucoup, madame. Président, vous faites face à la rareté des produits, les frontières sont fermées. Est-ce que, selon vous, parmi vous, il y a d'autres qui ont adopté un autre comportement pour continuer les activités?
Oui, c'est obligé, parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Oui, nous pratiquons plusieurs astuces pour vraiment surmonter à ces problèmes. On a parlé des solutions. Vous savez, entre le Niger et le Nigeria, c'est tout le nord du Nigeria. Entre le Niger, c'est la même terre, même langage, même tradition, même religion. Donc, il faut avoir des réglementations entre États. Avant la CEDEAO ou IMOA, Union africaine, le Niger et le Nigeria sont déjà là. Il faut réviser, le directeur a cité quelques
solutions.
Oui. Donc ici, à côté du Niger, il faut vraiment avoir un mécanisme pour que le pays soit vraiment industrialisé. Parce qu'il nous faut une révolution industrielle. Nous sommes plus de 20 millions de populations. Il a besoin de travail. On dit pour vivre, il faut produire, acheter et vendre. Vous voyez.
Alors, aujourd'hui, sur le marché, quels sont les produits qui ne rentrent pas comme avant?
Bon, la majorité des produits...
ne rentrent plus comme avant.
Oh, oui, comme avant.
Nous acheminons tout doucement vers la fin de notre forum. À présent, nous allons parler des initiatives à long terme qui pourraient être prises. Alors, Monsieur Yaya Ali, quelles sont les initiatives, selon vous, en termes économiques, à long terme, qui pourraient être prises pour renforcer la résilience de l'économie face à de telles crises, qui sont vraiment des crises à répétition?
Il faut prévoir, agir, anticiper et se faire des options. Il faut que nous nous départions du commerce acheter et vendre, qui n'a aucune valeur ajoutée. D'ailleurs, on s'appauvrit à long terme. La pauvreté, c'est pas que on perd. Non. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire plus. Et si tu ne fais pas, si tu fais moins que ce que tu devais faire, tu perds. J'ai fait l'économie politique et je suis planificateur. Le planificateur se jette dans des perspectives en tenant compte d'hier, d'aujourd'hui et de demain, court terme, après demain, moyen terme et plus loin, long terme. En 1915, lorsqu'on a créé la CEDEAO, parce que là, j'atterris. Puis, lui et moi, l'intégration économique, la libre circulation des biens et des personnes, la monnaie et les finances. Nous avons vu aujourd'hui.
Les limites.
Les limites. Eh, est-ce qu'on est resté? On a changé de fusil d'épaule. On a dit d'accord, là-bas, là, on va voir. Mais on ne va pas être tellement dépendant pour moisir. On va changer d'option. Et vous avez vu, le 25 novembre, les ministres d'économie et des finances du Mali, du Niger, du Burkina se sont réunis. Ils ont fait un communiqué final. Où il y a un programme économique de la zone de l'AES et qui rentre dans le cadre de la charte de l'alliance des États du Takogrouma. Là-bas, c'est une sous-région de 15 pays ou 8 pays, si c'est le mois. 15, c'était 16 avec la zone. Maintenant, nous sommes à 3 parce que les 3 sont condamnés et ne doivent pas être dépendants. Et vous avez vu. Et tous ceux dont on parle là, l'ouverture là qu'on parle, l'adaptation là dont on parle, ils ont échafaudé un programme de développement économique de la zone et de l'Eptako sur la base de l'alliance des États du Sahel qui mérite d'être approfondi, étudié dans tous ses contours. Mais les 4 programmes, c'est quoi? C'est les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens au sein des pays membres de l'AES. Si de l'autre côté, ça s'améliore, tant mieux. Si ça ne s'améliore pas, je ne dirais pas tant mieux, mais dans tous les cas, on a une brèche sur laquelle on s'accroche. Deuxième élément, la sécurité alimentaire. Tout ce qu'on importe, ou c'est de l'alimentation, ou de ceci ou cela. Mais avec cette dynamique-là, sous-régionale, c'est une alternative possible qu'il faut explorer.
Ce sont des initiatives.
Ce sont des initiatives. Troisièmement, la sécurité énergétique. Tout à l'heure, là, on a parlé de la coupure de l'électricité.
Qui a fait mal
au commerçant. Et, sans rentrer dans l'histoire, moi j'ai fait partie, en tout cas, je sais l'historique de cette histoire de la fourniture de l'énergie du Nigeria au Niger. Parce que j'ai fait le voyage du barrage de choses, comment il y a un barrage là au Nigeria. J'étais à Mada au plat. Donc, je sais, mais on nous a imposé ça. Mais, vous avez vu, il faut que la sécurité énergétique. L'autre affaire, c'est la transformation industrielle, potentialité et perspective. Il faut, dans ce programme-là, il y a cet aspect-là. Et le troisième, le cinquième chose, c'est le financement, l'intégration économique, l'arsenal réglementaire et réformes nécessaires pour que nous adoptions. Donc, avec ces mesures, avec ces initiatives que nous développons aujourd'hui, à trois États, c'est une alternative.
Merci beaucoup, M. Yaya Hari. Monsieur le lecteur, alors, quelles sont, selon vous, ou bien les attentes quant à l'évolution future de la situation et les relations commerciales entre les deux pays?
Donc, merci, M. Mohamed. Je voudrais aller dans un sens de mes prédécesseurs d'abord, pour dire que, au niveau de, après c'est-à-dire l'événement de la fermeture, il y a eu des initiatives que l'État a entreprises. Premièrement, il y a eu des prospections, c'est-à-dire des relations, la recherche d'autres partenaires, d'autres investisseurs, dans le cadre gagnant-gagnant. Donc, et il y a aussi la visite que le ministre a fait pour voir les industries qui existent, comment maintenant les mettre, c'est-à-dire comment les maintenir, et aussi songer à la création d'autres. Et récemment, il y a eu la charte des PME. Au début, et pour accéder au code d'investissement, il faut 100 millions d'investissement. Et maintenant, c'est ramené à 25 millions. C'est-à-dire que ça peut aller même en dessous. Si on voit que les entrepreneurs ou les gens qui veulent investir
se sont intéressés.
Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de booster la création, l'entrepreneuriat au niveau local. Et si peut-être au niveau de la création des industries, il faut se dire aussi la vérité, quand les gens bénéficient du code d'investissement, vous allez voir juste après le temps, les 5 ans qu'on leur donne, peut-être un an, après un an, 2 ans, vous revenez, l'industrie n'existe plus. Bon, il y a aussi des dispositions que de l'autre côté, les gens doivent prendre. Donc maintenant, je reviens par rapport à l'autre aspect dont vous venez de dire. C'est pour dire que, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est qu'au niveau des dispositions que l'État est en train de prendre, de comment maintenant améliorer cette situation pour qu'au niveau de notre production locale, on puisse booster la production locale. Parce qu'on a des terres, on doit songer à des productions saisonnières, des cultures de contre-saison, des choses qu'on a l'habitude d'acheter de l'autre côté.
On peut les produire nous-mêmes.
Qu'on produit localement. Et c'est pas que c'est impossible, parce qu'on a la terre. Il faut seulement mettre les semences,
mettre en place la politique, oui, la politique nécessaire pour faire.
La politique nécessaire. Donc moi, peut-être c'est ça que j'allais dire. Il faut qu'on songe à parce que c'est quelque chose, c'est une situation qu'on vit. Il faut qu'on pense à s'en sortir au niveau local. Il faut qu'on mette ça dans.
Merci beaucoup, monsieur le docteur. Madame, alors, pour finir avec vous, quelles sont aujourd'hui les perspectives que vous êtes en train de prendre au niveau de vos entreprises pour vraiment rendre vos entreprises encore viables?
Bon, comme je vais le répéter encore, c'est d'abord d'être patient, d'être résilient. Mais on espère vraiment que des mesures seront prises pour que nous puissions repartir de plus belle. Et on espère aussi que quand il y aura des investisseurs, que les investissements là seront faits à qui de droit, à ceux qui le méritent. Parce que comme il l'a dit tout à l'heure, mon prédécesseur, il disait que souvent quand on donne on fait des investissements à quelqu'un, après ça n'existe plus. Parce que tout simplement, on ne donne pas à quelqu'un qui a cette vision, qui a cette passion. Dans l'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou pas, il y a des opportunistes. Il y a des gens que ce n'est pas... Ils portent un projet, mais ils le portent uniquement pour pouvoir avoir de l'argent. Et c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, le pays est à un stade où vraiment nous devons avoir des vrais entrepreneurs qui vont changer les choses, qui vont impacter le pays, changer l'économie du pays de façon réelle et de façon concrète aussi. Donc c'est ce que j'espère. Et puis j'espère aussi qu'on va être accompagné. Parce que souvent quand vous donnez des investissements à quelqu'un et puis on le laisse, il n'y a pas d'accompagnement derrière, c'est vraiment dommage. Donc c'est toute une politique, tout un système qu'on doit mettre en place de suivi, évaluation avec des délais d'exécution avant vraiment de faire confiance à ces entrepreneurs-là et puis les accompagner, leur permettre de se réaliser et aussi faire confiance à ces jeunes-là. Parce que souvent aussi, on prend des gens, on leur donne et après on a peur de leur donner par exemple une certaine somme parce qu'on se dit que non, il va bouffer ou bien voilà, voilà. Alors que lui, s'il a déjà fait ses preuves, moi je pense qu'un jeune entrepreneur qui a déjà fait ses preuves, qui se bat, surtout dans cette situation actuelle, on peut lui faire confiance, investir dans son projet, l'accompagner, faire un système de suivi, évaluation, le suivre, voir exactement où il en est. Pourquoi même ne pas faire des voyages d'études pour essayer d'apprendre vraiment et essayer de voir comment
s'en sortir. Merci madame. Nous allons finir avec vous, Mohamed Hassani Rabiou. Alors quelles sont les perspectives pour garder toujours vos activités intactes, malgré bien sûr les difficultés liées à la fermeture des frontières?
Oui, c'est le changement de la direction. Ça a commencé déjà. Par exemple, l'importation de maïs, avant c'était le Bénin et le Nigeria. Maintenant, ça a commencé avec le Burkina Faso. Donc, c'est un pas vraiment nécessaire pour
continuer les activités.
Voilà.
Mesdames et messieurs, merci. En conclusion, nous dirons que la fermeture des frontières est une réalité entre le Niger et le Nigeria, mais cela doit être mis à profit ici au Niger pour mettre en place des initiatives afin de créer de la richesse au plan national. Merci, monsieur Yaya Hari, pour votre participation. Vous êtes économiste et planificateur à Maradi. Monsieur le directeur régional du commerce et coordinateur de la commission Maradi Katina Akano, merci pour votre participation. Madame Hadjara, vous êtes entrepreneur ici à Maradi, commerçante. Merci aussi d'avoir participé à notre forum. Laji Mohamed Sani Rabiou, vous êtes commerçant et président des commerçants du Grand Marché de Maradi. Merci pour votre participation. Merci. On se dit à bientôt. Merci.
Merci. Merci beaucoup.